France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, des femmes contre une centrale nucléaire, Fessenheim, en Alsace. 50 ans à peine après la découverte de la radioactivité par Marie Curie, les autorités françaises font le pari de l'atome, promesse de progrès, de rentabilité et d'indépendance. Après plusieurs expérimentations, il est décidé que la centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, marquera le point de départ d'un gigantesque programme nucléaire civil. Et la France sera bientôt le pays le plus nucléarisé au monde, au regard de sa population. Mais face aux responsables politiques qui imposent l'atome comme unique alternative au pétrole, des voix s'élèvent. Dès 1970, la petite commune de Fessenheim devient le théâtre de l'une des premières grandes mobilisations antinucléaires en France et même en Europe. Parmi les manifestants, de très nombreuses femmes, dont le combat local s'inscrit dans une histoire plus vaste, à l'international, où se croisent des militantes pacifistes, féministes et écologistes. Dès leurs prémices, les luttes antinucléaires s'écrivent au féminin. Notre invitée aujourd'hui, Jeanne Burgard-Goutal, philosophe et autrice du livre « Écoféminisme, théorie et pratique », ouvrage publié aux éditions L'Échappée en 2020. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Atoms for Peace, des atomes pour la paix, c'est le programme lancé par le président Eisenhower en 1954 afin de développer l'usage du nucléaire à des fins civiles, en particulier pour la production d'électricité et pour la médecine. 9 ans après les bombardements à Hiroshima et Nagasaki, il s'agit désormais de rassurer. L'atome peut répondre aux besoins de la société moderne, assurer sa prospérité et même sauver des vies. Au même moment pourtant, les États-Unis multiplient les tests de bombes H dans le Pacifique. De l'autre côté de l'Atlantique, la France emprunte le même chemin en développant le nucléaire militaire autant que civil. Un premier réacteur est édifié à Marcoule, dans le Gard, dès 1956. De René Coty jusqu'à Georges Pompidou, en passant par le général de Gaulle, l'idée s'impose politiquement, le nucléaire sera l'énergie de demain. Après avoir expérimenté les réacteurs graphite-gaz, l'État et EDF font le choix d'une nouvelle technologie, les REP, réacteurs à eau pressurisée. Et c'est à Fessenheim, à 30 km au nord de Mulhouse, que sera implantée la première centrale REP, comme l'explique cet ingénieur dans les actualités d'Alsace en 1967.
Pourquoi le choix de Fessenheim en tant que site d'implantation de cette centrale ?
Eh bien, d'abord parce que les centrales nucléaires ont besoin, comme les centrales thermiques, d'eau pour assurer le refroidissement. Et le Rhin fournit les eaux de refroidissement nécessaires. Elle sera la plus puissante des centrales nucléaires françaises, c'est-à-dire qu'elle sera non seulement la plus puissante des centrales nucléaires, mais la plus puissante des centrales thermiques françaises.
Y en aura-t-il d'autres ?
Je pense, après cette centrale de 700 MW électriques, nous en verrons probablement d'autres, 3 ou 4.
Entre fleuves et forêts, le site de la centrale de Fessenheim se trouve à moins de 5 km de l'Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin, et à 20 km de la Suisse. On parle alors de l'axe nucléaire rhénan. Car Fessenheim fait partie d'un ensemble de projets de centrales disposés symétriquement le long du Rhin pour couvrir les besoins de cette région industrielle transfrontalière. Fessenheim, Gerstheim, Cattenom, côté français, Breisach, Philippsburg, Biblis et Mülheim-Kärlich, côté allemand. Avec ces 4 réacteurs à eau pressurisée, d'une puissance de 900 MW chacun, Fessenheim doit coûter l'équivalent d'un milliard d'euros, financé par EDF, avec le soutien d'entreprises suisses et allemandes. En France, les premières contestations antinucléaires concernent d'abord son usage militaire. Des militants et des militantes pacifistes dénoncent les essais français dans le Sahara algérien et les retombées radioactives auxquelles sont exposés les militaires et les populations locales. Mais c'est aux États-Unis que les mouvements pacifistes anti-nucléaires se montrent les plus actifs. Avec en tête de file des femmes. En 1961, elles sont 50 000 à manifester pour dénoncer les essais nucléaires et notamment la contamination du lait maternel au strontium 90. Du jamais vu dans un pays où les manifestations de rue sont rares, d'autant plus quand elles sont menées par des femmes. Parmi ces mères de famille américaines, issues de la classe moyenne, se trouve Eleanor Gast, qui s'exprime lors d'un meeting en 1962.
J'aimerais revenir sur les origines de ce mouvement qui a commencé l'été dernier, lorsque des femmes de tout le pays ont commencé à terriblement s'inquiéter de la nouvelle spirale de la course aux armements et de la manière dont la situation se tend de plus en plus. Et nous avons décidé que si nous voulions que le peuple exprime ses inquiétudes et ses peurs, nous devions prendre la parole. Car nous étions le peuple. Et le 15 janvier, la Women's Strike for Peace est devenue WISP, la Women's International Strike for Peace, la grève internationale des femmes pour la paix.
Les militantes américaines de la Women's Strike for Peace, qui dénoncent d'abord l'usage militaire de l'atome, regardent avec méfiance les centrales nucléaires civiles se multiplier aux États-Unis. Des scientifiques comme le biologiste Barry Commoner évoquent déjà les risques d'accidents, de contamination, et pose la question du devenir des déchets radioactifs. C'est dans ce contexte, à la fin des années 60, que l'Alsacienne Esther Peter-Davis rend visite à sa belle-famille dans le nord-ouest des États-Unis. Née en 1932 à Strasbourg, cette traductrice polyglotte et mère de famille revient d'un voyage en Afrique de l'Ouest, où elle a milité contre les essais nucléaires français dans le Sahara. Aux États-Unis, Esther Peter-Davis découvre avec effarement les quatre immenses tours de béton de la centrale Three Mile Island en Pennsylvanie. L'île deviendra célèbre quelques années plus tard après un accident survenu en 79. Alors, quand elle entend parler du projet de centrale de Fessenheim, à quelques dizaines de kilomètres de chez elle, en Alsace, Esther tend l'oreille. Une centrale nucléaire dans cette région fortement peuplée? Quels sont les risques? La militante, qui a rapporté des États-Unis des ouvrages spécialisés, souhaite partager son savoir et informer ses concitoyens et concitoyennes. Avec deux autres femmes, Françoise Boucher et Annick Albrecht, Esther édite en juin 70 Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace. Un recueil d'articles et de documents scientifiques de 60 pages, souvent traduits de l'anglais, est consacré au danger du nucléaire civil. Elle prend la parole en 1970 dans les actualités d'Alsace.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Sujets sérieux et plus légers alterneront dans notre journal télévisé.
Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La décrue semble s'amorcer dans les cours d'eau de notre région.
Que la centrale soit implantée à Fessenheim, bien sûr, nous intéresse tout particulièrement puisque nous habitons à moins de 20 km de la centrale, si elle doit être construite. Et nous demandons surtout que partout où il y aura des centrales nucléaire, les gens soient informés et dans un certain sens sachent, s'ils acceptent la centrale, quels sont les risques auxquels ils s'exposent. Je crois que c'est le droit le plus strict de tout individu.
Il y a quand même une certaine psychose de la pollution, c'est certain. On a peur un petit peu aussi de ce mot nucléaire. Vous avez publié, vous, une revue, Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace. Est-ce que vous pensez quand même pas que vous allez un petit peu trop loin?
Je ne le pense pas.
Le risque que mettent en avant Esther Peter-Davis, Françoise Boucher et Annick Albrecht, c'est d'abord l'accident nucléaire en cas de séisme ou d'inondation. Car la centrale se trouve sur une faille sismique et elle serait exposée à la montée des eaux en cas de rupture de digue sur le Grand Canal d'Alsace. Il y a aussi les dangers de la contamination au long cours de l'air et de l'eau du canal, ainsi que son réchauffement, qui serait néfaste pour l'environnement. Et tout ça sans parler du traitement des déchets nucléaires. Les trois militantes soulignent enfin l'absence d'études d'impact indépendantes et la prise de décisions centralisées sans concertation locale ni mise à disposition d'aucune donnée. La revue Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace, est publiée avec le soutien du tout récent comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, le CSFR. Créée par Jean-Jacques Rettig, Alain Boss et leurs épouses, cette association antinucléaire, centrale dans la région, distribue le livret à plus de 5000 exemplaires. de quoi venir combler le vide d'un débat inexistant. Car EDF n'a pas fait le choix de la transparence. Dans les quelques réunions publiques que l'entreprise d'État organise, il s'agit bien sûr de défendre la centrale, son impact sur l'emploi, sa technologie de pointe, sa propreté. Des accidents nucléaires, il n'y en a jamais eu. Le CFSR organise alors ses propres réunions d'information pour sensibiliser le public à la question du nucléaire. De leur côté, Esther Peter-Davis, Françoise Buchet et Annick Albrecht multiplient elles aussi les conférences et les interviews. Reportage de Jérôme Bellet pour l'ORTF auprès de celles que les journalistes ont surnommées les guêpes de Fessenheim. Des guêpes, eh oui, parce qu'elles piquent.
Le public représente le seul espoir dans la lutte contre la pollution. C'est donc presque un appel à la révolte justifiée des femmes, des mères de famille qui veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre. Il s'agit de ça. En fait, il s'agit de la vie.
Personnellement, je n'accepte pas pour mes quatre enfants que EDF les prenne pour cobayes. Je refuse totalement, même si je dois intenter une action en justice à EDF.
Oui, mais madame, on ne peut pas aller contre...
C'est ma décision.
On ne peut pas aller contre le progrès.
Ah, c'est pas un progrès. Ce n'est pas un progrès que tu aimes. Ce n'est pas un progrès que d'assurer à la vie.
Françoise Buchet était institutrice et Annick Albrecht, puéricultrice. Quant à Esther Peter-Davis, elle est traductrice et militante anti-nucléaire depuis les années 60. Mais ce sont avant tout comme des mères que les guêpes de Fessenheim se présentent publiquement. Oui, des mères inquiètes pour leurs enfants et qui ne font pas leur expertise sur des diplômes, mais sur les recherches qu'elles ont menées depuis leur foyer. Je ne sais pas ce qui ennuyait le plus les pro-nucléaires, les informations que je révélais ou le fait que c'était une femme qui le faisait, remarquera Esther Peter-Davis des années plus tard. Ces femmes qui osent prendre la parole sur un sujet aussi technique, aussi masculin, pense-t-on à l'époque, ça n'est pas du goût de chacun. Le physicien Louis Nel sur RTL ose avancer qu'avec son intelligence, Esther Peter-Davis ne peut pas comprendre ce genre de choses. Et les médias ne sont pas exempts de misogynie, plus ou moins larvée. À la télé, par exemple, le journaliste Jérôme Bellet fige dans leur genre celle qui décrit comme un trio de charme. Esther Peter-Davis et Françoise Buchet lui répondent.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu des femmes qui meublaient leurs loisirs ?
Des loisirs ? Vous croyez que j'en ai beaucoup avec mes quatre gosses ?
C'est un petit peu gros. Parce que je vous assure, personnellement, j'aimerais beaucoup faire autre chose. J'estime que tout le monde a le droit d'être informé. Et si personne ne le fait, personne jamais ne le fera.
Précisément parce que vous êtes des femmes, est-ce qu'auprès de certaines personnalités ou de certains scientifiques, il n'y a pas une certaine réticence, parfois ?
Oui, c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Je suis d'accord avec vous.
À la suite de ses prises de parole publiques, Esther Peter-Davis reçoit des menaces qui la visent, elle et ses enfants. Elle fait le choix de s'éloigner du mouvement, tandis que la lutte contre la construction de la centrale de Fessenheim, riche des enseignements des guêpes, trouve une nouvelle ampleur. Le 12 avril 1971, sous l'égide du CSFR, se déroule à Fessenheim une première manifestation qui réunit 1500 personnes. Un an plus tard, le 7 mai 72, elles sont entre 5000 et 10000 à affirmer haut et fort leur refus de l'atome. Et c'est une victoire qui vient couronner de succès ses premières années de combat, puisque EDF réduit le nombre de réacteurs de la centrale de 4 à 2. Pour les militantes et les militants du SSFR, ce sont toujours de trop. Une course contre la montre s'engage alors que les travaux de terrassement commencent. Les antinucléaires le savent, tout obstacle dans la construction pourrait créer des retards et augmenter les coûts du chantier, au point, rêve-t-on, qu'il soit abandonné. Il faut donc continuer à alerter l'opinion publique et maintenir le cap de la pression populaire. Mais le choc pétrolier de 1973 va venir heurter de plein fouet les espoirs du camp antinucléaire. Pour assurer l'indépendance énergétique du pays, le premier ministre de Georges Pompidou, Pierre Messmer, poursuit le chemin décidé par ses prédécesseurs. Le 6 mars 1974, il annonce à la télé « La seule alternative crédible au pétrole, c'est l'atome, rien que l'atome. Moderne, rentable et propre », martèle-t-il.
Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout cela. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 MW chacune. Aucun pays au monde, sauf les États-Unis, ne fait un effort comparable. Et il y a là véritablement une des grandes œuvres que nous allons réaliser au cours des prochaines années.
Le monumental plan Messmer prévoit au total la construction de 80 réacteurs nucléaires en 10 ans. Les énergies renouvelables, solaire, éolien, biomasse, géothermie et autres énergies douces, comme on les désigne à l'époque, ne sont pas une option. Comme quoi il n'y a pas de débat, y compris à l'Assemblée nationale où ces décisions ne font l'objet d'aucun vote. Les sites des futures centrales sont choisis par l'État, dans une logique technocratique centralisée, incarnée par les grands corps d'ingénieurs. En gros, papa décide, les enfants obéissent. Mais à Fessenheim, qui doit inaugurer ce programme, le combat est loin d'être terminé.
S'étendaient au loin, ont disparu de mon champ de vision. Et si l'hiver n'en finit pas entre ces murs de béton, comment voir si le soleil est encore en un morceau qui peut s'enfuir, sauver sa peau, laisser ce monde de sur le dos. À l'aube, je vois des fantômes, des plumes solitaires. Ils tirent sur le temps leur fardeau et traînent leurs pas de travers sur les trottoirs sans lumière, espérant encore le nez à terre, trouver le répit d'un éclair dans les flaques de poussière.
Elle se lézarde, la fêlure, le réacteur est en fusion. On ferme les yeux sur les fissures, colmatons y du sparadrap. Que du feu on verra, que du feu on y verra.
Plaines qui s'étendaient au loin ont disparu sous le ciment. Une ville sans terre où l'on s'enlise des champs de guerre et de balises. Qui pourra voir si le soleil a encore tous ses rayons. Qui peut s'enfuir, sauver sa peau, laisser ce monde de sur le dos.
Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le combat anti-nucléaire des femmes à Fessenheim.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Ce titre, Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace, est-ce que vous n'allez pas un peu loin quand même?
Je ne sais pas si nous allons trop loin. Personnellement, je ne suis pas contre l'industrie nucléaire. Fessenheim, vie ou mort de l'Alsace, ça peut paraître un peu gros, ça peut paraître un petit peu pessimiste. Personnellement, après ce que nous avons lu, nous sommes très angoissés, je vous assure. Et cette angoisse, elle est permanente, elle est là, on ne peut pas la nier.
Elle dépasse même Fessenheim, alors.
Elle dépasse Fessenheim.
Elle concerne l'énergie nucléaire et les
centrales. Elle concerne l'énergie nucléaire en général, parce qu'il faut bien se dire que nous ne serons pas les seuls. Il y a tout un réseau de centrales qui est prévu également sur le Rhin. Je crois qu'il faudrait élargir la chose et en parler sur un plan européen, et voire même mondial.
Les centrales nucléaires, en effet, ne constituent pas seulement une question française. C'est ce que rappelle à la télé Françoise Boucher, l'une des trois guêpes de Fessenheim. ces militantes alsaciennes qui sensibilisent l'opinion publique au risque du nucléaire. Dans les années 60, la République fédérale d'Allemagne a engagé un vaste programme nucléaire civil et connaît dans le même temps ses premières oppositions citoyennes. La mobilisation de 1972 contre la centrale de Breisach dans le pays de Bade, à deux pas de Fessenheim, s'est soldée par une victoire. Le projet a été abandonné. Un succès populaire qui encourage bien sûr les militantes et les militants alsaciens, badois et suisses à unir leurs forces par-delà les frontières. D'une même voix, en français, en allemand ou en alémanique, la langue qui unit cette région transfrontalière, les antinucléaires dénoncent une stratégie coordonnée pour nucléariser le Rhin sans consultation démocratique et un risque partagé, une catastrophe qui toucherait trois pays à la fois. En février 75, quelques centaines de personnes occupent le site de Ville, à 40 km au nord de Fessenheim, où les autorités allemandes entendent édifier une centrale nucléaire. Elles seront bientôt plus de 25 000. Dans le froid humide de la forêt rhénane, il y a des vignerons inquiets, des professeurs des écoles, des militants et des militantes de la première heure, des intellectuels venus d'Allemagne, de Suisse et de France. Cette lutte transfrontalière est un symbole de réconciliation 30 ans après la guerre. Au cœur du campement, une maisonnette de bois, la maison de l'amitié, devient un lieu de rencontre et de partage. On y mange, on y débat et on y chante en plusieurs langues. Parmi les militants et les militantes qui ont traversé le Rhin, il y a cet homme et cette femme, Solange Fernex, interrogée à la télé.
Les 21 organisations qui avaient occupé le chantier de Marcosem avaient également dit qu'elles s'opposeraient à l'érection de cette centrale nucléaire à Ville, qui se trouve donc à proximité immédiate du Rhin. Et les riverains du Rhin du côté alsacien auront autant à en souffrir que les badois. Et c'est pour ça que nous sommes sur ce terrain.
Et on a l'impression que dans le nucléaire, on passe outre à certaines pratiques démocratiques qu'on devrait respecter.
Vous estimez que cela va trop vite ?
Ah, de toute façon, oui. C'est un programme tout d'abord démentiel. Tout ce que ça entraîne comme problème, ne serait-ce que pour les transports, vous voyez déjà des incidents que nous avons vus en France, par exemple, et ça posera des problèmes énormes puisqu'il faudra transporter des tonnes et des tonnes de matériaux radioactifs et des accidents peuvent très souvent se produire.
Solange Fernex est née en 1934 à Strasbourg. Militante pacifiste, elle s'est engagée contre le nucléaire civil après sa rencontre avec des Japonais lors de la mise en service du premier réacteur de Fukushima. C'était en 1971. Avec sa deux chevaux et ses trois fils, elle ne détonne pas sur le camp. Au contraire, à Ville, comme à Fessenheim, il y a des femmes, beaucoup de femmes, des agricultrices, des mères de famille, des militantes, qui répondent aux journalistes, distribuent des tracts et préparent les repas. La charge mentale n'épargne pas le militantisme. Certaines, fichues sur la tête et enfants dans les pattes, deviennent le visage du mouvement, incarnant un combat du quotidien pour la protection de la terre et de la vie. Après plusieurs mois d'occupation, le projet allemand de centrale est abandonné. Des deux côtés du Rhin, Ville devient ainsi un modèle de résistance non violente et redonne espoir aux opposants à Fessenheim où les travaux suivent leur cours. Mais dans les années 70, l'activisme revêt aussi d'autres formes, plus radicales, comme en témoigne Jacques Hébert sur France Inter.
Bonsoir. Un attentat à la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Cet attentat à l'explosif, dit-on, était annoncé à la direction de la centrale par un appel téléphonique lui annonçant que cet attentat était revendiqué par un groupe d'anarchistes espagnols et allemands. À la gendarmerie dont dépend la centrale, on indique que les explosions n'ont pas fait de blessés, mais aucune précision n'est apportée quant à la nature et à l'ampleur des dégâts. L'un de nos confrères de Strasbourg vient de nous appeler pour nous donner quelques précisions.
On connaît maintenant approximativement l'étendue des dégâts, des machines et des outils de chantier sont détruits. On peut se demander tout de même comment il est possible d'entrer si facilement dans une centrale. On peut se demander aussi si un tel attentat serait possible dans une centrale en fonctionnement et quelles en seraient alors les conséquences.
Le 3 mai 1975, une 4L orange s'arrête sur le parking de la centrale nucléaire de Fessenheim. Deux personnes en sortent et déposent sans difficulté des pains de dynamite sur le chantier. Le directeur de la centrale est à la chasse. Quand à 14h14 résonne une première détonation, suivie d'une seconde à 14h16. Les deux explosions endommagent la cuve, les tubes de sécurité, les puits d'instrumentation et les pompes du générateur, mais sans faire de blessés. Pourtant, malgré 10 millions de francs de dégâts et l'annonce d'un retard de plusieurs mois dans les travaux, une large partie de la presse reprend le discours de la direction et minimise les dommages. Seule Libération et La Gueule Ouverte, un journal écologiste, publient le communiqué anonyme qui a été envoyé à la presse par un commando au nom mystérieux, le commando Puigantic Ulrike Meinhof.
Nous revendiquons le sabotage de Fessenheim, qui aurait dû entrer en fonction à la rentrée et qui ne pourra fonctionner que l'année prochaine. Ce qui dément totalement les mensonges de l'EDF et de la presse lèche-pouvoir sur les dégâts minimes, dont le seul canard enchaîné a dénoncé l'ampleur. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour que nulle vie humaine ne soit menacée.
L'EDF peut-elle en dire autant ? Nous déclarons de surcroît que nous avons choisi délibérément pour second nom Ulrike Meinhof, en rappel du fait que les femmes sont en tête du refus de ce nucléaire, qui n'est que le dernier mot capitaliste de cette société bâtie sans elle et contre elle.
Si le commando de l'attentat de Fessenheim emprunte le nom d'Ulrike Meinhof, c'est pour lui rendre hommage et non pour la faire accuser à tort. Il s'agit de la militante, considérée comme le cerveau de la bande à Bader, un groupe terroriste d'extrême gauche, alors emprisonné en Allemagne. Le sabotage du 3 mai 75 est le premier d'une série d'actions menées en France contre des installations nucléaires, électriques et industrielles. Sabotage de pylônes et lignes EDF, de transformateurs, d'engins de chantier. Dans la seconde moitié de la décennie, les renseignements généraux recensent chaque année des dizaines d'actes de dégradation, souvent à l'explosif. On parle alors d'éco-sabotage. Le CSFR, le comité qui organise le combat antinucléaire à Fessenheim, récuse publiquement les méthodes du commando du 3 mai 75, tout en assurant ne pas porter de jugement. Le sabotage n'est qu'une des réponses au déni de démocratie dont font preuve les autorités. À la fin du mois de mai, une manifestation d'une ampleur jamais atteinte va réunir à Fessenheim près de 15 000 opposants au nucléaire. Leur mot d'ordre, on réfléchit et on arrête. Jean-François Rettig, du CSFR, l'assure et rassure, le combat doit prendre d'autres formes, mais toujours dans le cadre de l'action non-violente ou de la désobéissance civile.
Si nous n'obtenons pas gain de cause, c'est-à-dire si nous n'obtenons pas d'être considérés comme des citoyens à part entière, ayant droit à la discussion honnête et publique.
Quelles sont les autres formes d'action que vous pouvez envisager ?
Alors, les autres formes d'action, je ne peux pas vous décrire tout. Nous resterons dans la ligne que nous nous sommes tracés, ce qu'on nomme généralement les moyens non violents. Nous ne comptons pas placer des bombes, etc.
À chacun sa stratégie, ou plutôt à chacune. Car le commando responsable du dynamitage du 3 mai 75, on le sait aujourd'hui, est composé de l'autrice Françoise Daubonne et de son compagnon Gérard Hoff. Le couple est également à l'origine de la destruction en juin de la même année de l'ordinateur central de Framatome, un constructeur de centrales nucléaires. Membre fondateur du MLF, le mouvement de libération des femmes, Françoise Daubonne est également signataire du manifeste des 343 pour le droit à l'avortement. Militante féministe et écologiste, elle est l'une des premières à établir un lien entre la domination masculine des femmes et la destruction de la nature par l'homme. En 1974, c'est elle qui utilise pour la première fois un terme qui fera date, écoféminisme. Deux ans auparavant, elle expliquait sa pensée à la télé dans Aujourd'hui Madame face à Jean Lartégui, auteur d'une lettre ouverte aux bonnes femmes.
Madame Daubonne réclame le pouvoir féminin contre les hommes et après, pourquoi faire ? Pour abandonner ce pouvoir, alors quelle utilité qu'elle le prenne et qu'elle le garde, elle ne veut même pas le garder.
Absolument pas. Tout pouvoir est mauvais entre les mains de qui que ce soit. Et cela
alors
a été prouvé.
Pourquoi le prendre ?
Le prendre pour le détruire.
Et après
la société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement. Et il est temps que la planète redevienne verte. Et ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. Et à partir du moment où les êtres seront égaux, il n'est pas question que les femmes détruisent les hommes, c'est une bêtise. Il n'est question que de reprendre le pouvoir à ceux qui en ont fait ce que nous voyons, qui ont détruit la planète. Eh bien, le pouvoir, nous n'en aurons plus besoin. Nous l'enverrons promener et tout le monde sera tout le monde aura le pouvoir parce que ce sera l'autogestion générale.
Dans les années 70, Françoise Daubonne prend publiquement le parti de ce qu'elle appelle la contre-violence, une stratégie qu'elle met en application à Fessenheim. Mais la radicalité de cette militante libertaire la distingue de la majorité des militantes écologistes, de plus en plus nombreuses au cours de la décennie. La protection de la nature, la remise en question du progrès technique et du modèle industriel, la défense de la santé, la centralisation énergétique, autant de problématiques qui interrogent profondément les femmes en France et dans le monde. En Angleterre, aux États-Unis, en Inde, en Polynésie ou au Kenya, des collectifs de femmes s'organisent pour la défense de leurs terres, contre le nucléaire, contre la déforestation, contre les pesticides, contre la pollution industrielle. En 1977, après 6 ans de travaux, la centrale de Fessenheim et ses 2 immenses tours de béton sont sortis de terre. Pour les militantes et les militants qui, depuis 1970, alertent sur les risques d'un tel projet et dénoncent l'absence de transparence des autorités, il faut s'y résoudre, Fessenheim sera. Mais une revendication reste encore à défendre, et jusqu'au bout, celle du droit à être informé, consulté. À la veille de l'inauguration de la centrale, le comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin lance une campagne que relate en ces termes Roger Jiquel sur TF1.
Fessenheim, une centrale nucléaire nouveau style, sera prête à fonctionner. Mais cette centrale nucléaire suscite une opposition des contestataires beaucoup plus forte qu'auparavant. Parce que c'est un modèle américain dont nous n'avons pas l'expérience en France. 7 personnes font une grève de la faim dans un village du Haut-Rhin. Ce qu'elle veut obtenir, c'est que Fessenheim ne démarre pas avant que ne soient publiées les conclusions de la commission de contrôle indépendante de l'EDF. Il demande aussi la publication intégrale du plan Orsec contre les irradiations en cas d'accident. La contestation s'engage donc pour maintenant revendiquer une participation populaire de contrôle, puisque cette centrale, disent-ils, engage la sécurité des citoyens. Mais finalement, est-ce possible et réaliste ce contrôle ?
Ce que veulent les militantes et les militants antinucléaires, ce sont des garanties élémentaires de sécurité. Et en particulier, la création d'une commission de contrôle, incluant des élus locaux et des associations, ainsi que des exercices d'alerte pour les populations. Le comité pose aussi la question du démantèlement de la centrale, et plus largement des déchets radioactifs. Face à l'absence de réponse des autorités, la militante Solange Fernex, habituée du combat antinucléaire, entame une grève de la faim avec son fils et 5 autres étudiants strasbourgeois. Un geste désespéré pour interpeller les pouvoirs publics et la population quand tous les moyens ont été épuisés. Après 23 jours de jeûne et 2 grandes manifestations devant les préfectures de Strasbourg et de Colmar, l'engagement des grévistes paie, une commission de contrôle est créée. Écho sur France Inter.
C'est à 5h ce matin qu'ont commencé les derniers préparatifs destinés à la mise en route de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette opération devant durer 10 heures, c'est donc vers le milieu de l'après-midi que devrait avoir lieu la divergence, c'est-à-dire le démarrage de la réaction en chaîne au sein du réacteur nucléaire. Et ce n'est enfin que vers le milieu de l'été prochain que Fessenheim atteindra sa pleine puissance, 900 mégawatts.
Le 7 mars 1977, Solange Fernex apprend en larmes la mise en service du premier réacteur de Fessenheim. Pour beaucoup d'autres militantes et de militants, pour les GEB de Fessenheim, pour le CSFR, pour Françoise Daubonne, c'est la conclusion d'un combat initié 7 ans plus tôt. Un combat peut-être perdu d'avance et qui pourtant a porté ses fruits. Car il y a d'abord cette commission de surveillance, la première instance de ce type en France, et un modèle pour les sites nucléaires et industriels classés Seveso. Il y a la naissance, au-delà de Fessenheim, au-delà de la seule question du nucléaire, d'une conscience écologiste et d'un réseau militant durable où les femmes, et en particulier les féministes, jouent un rôle majeur. 2 mois après l'inauguration de la centrale, 4 militants et militantes écologistes créent Radio Verte Fessenheim, une radio pirate, comme on dit à l'époque, qui pendant 4 ans diffusera chaque semaine, en français, en allemand et en alsacien. Une radio libre pour continuer d'informer la population, malgré l'interdiction de l'État et malgré la surveillance des renseignements généraux. À la fin des années 80, le plan Messmer trouve son aboutissement. 56 réacteurs ont été construits, 24 autres ont été abandonnés, mis en échec par des mouvements citoyens, notamment à Plogoff, en Bretagne, ou des femmes ont porté la contestation pendant de longs mois. Si le mouvement antinucléaire ralentit un temps la cadence, les catastrophes de Tchernobyl en 86, puis de Fukushima en 2011, ravivent les inquiétudes et redonnent de la force à l'opposition. La fermeture de la centrale de Fessenheim en 2020, après 42 ans d'exploitation et de contestation, fait alors office de symbole et surtout d'espoir, celui de la fin de la toute-puissance du nucléaire et d'une place nouvelle donnée aux énergies douces, propres et renouvelables.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le combat des femmes contre la centrale nucléaire de Fessenheim, dont nous parlons avec notre invitée Jeanne Burger-Goudal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et autrice d'être écoféministe théorie et pratique, livre publié aux éditions L'Échappée en 2020. Donc on va commencer par être précis sur les mots. On l'a vu, hein, le terme écoféminisme a été forgé par la militante Françoise Daubonne en 1974. Comment définit-elle l'écoféminisme dans ses textes et comment vous la définissez, vous ?
Merci, vous commencez directement par une question difficile. Alors, je dis que c'est difficile parce que l'écoféminisme est un mouvement qui a toujours été caractérisé par une immense diversité. Donc c'est un peu réducteur de le définir. Beaucoup de chercheuses préfèrent d'ailleurs parler des écoféminismes au pluriel. En tout cas, si on prend la genèse de ce terme sous la plume de Françoise Daubonne, son idée, donc dans cet ouvrage de 1974, Le féminisme ou la mort, c'est de dire que le féminisme, s'il veut rester ou devenir une grande force politique pour les décennies à venir, doit prendre position sur des questions universelles et ne pas rester cantonné à des questions vues comme des questions de femmes. Et elle perçoit bien que le grand enjeu qui se profil et l'enjeu écologiste. Donc il y a déjà cette stratégie et les raisons qu'elle a d'articuler écologie et féminisme tournent au début autour de la question démographique, la question du contrôle des naissances qui est à la fois un enjeu féministe et un enjeu écologique important dans les années 70. Et plus largement, à partir de ce point de départ, Françoise Daubonne, mais ensuite beaucoup d'autres militante, penseuse sur divers continents, finalement beaucoup plus à l'étranger qu'en France, vont approfondir cette compréhension des liens entre féminisme et écologie et plus largement entre les différents systèmes de domination. Voilà, le point commun de toutes les formes d'écoféminisme, c'est de postuler qu'il y aurait des liens étroits entre la domination de genre, la domination raciale, la domination de classe sociale, ça on l'entend pas forcément dans le terme écoféminisme, mais ça fait partie de leur analyse, et la domination sur la nature. Et donc elles cherchent à comprendre comment ces systèmes de domination sont nés, comment ils se sont articulés au cours de l'histoire, et comment ils ont constitué notre monde actuel sous ces différentes facettes, et à lutter contre ce système-là.
Bon, là c'est clair. Alors, pourquoi le nucléaire s'impose-t-il dans les années 70 comme un symbole du patriarcat et des rapports de domination ?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, ça peut paraître pas tout à fait évident. Et c'est une question qu'on retrouve pour d'autres luttes écoféminismes. C'est-à-dire, pourquoi faire un lien entre un enjeu qui apparaît comme un enjeu n'ayant rien à voir avec le féminisme, donc en l'occurrence le nucléaire, mais ça peut être aussi la déforestation, les pollutions, etc. Et pourquoi faire une lecture féministe de cet enjeu-là ? Alors pour le comprendre, il faut, je pense, élargir la compréhension du terme de patriarcat. Très souvent, en fait, on s'imagine que patriarcat, ça signifie simplement la domination des hommes sur les femmes. Mais dans les analyses féministes, ce qui est super intéressant, c'est que elles ont une compréhension du patriarcat comme étant un certain modèle de pouvoir, un certain système de pouvoir, une certaine manière d'exercer le pouvoir. Tout à l'heure, vous avez dit, en gros, papa décide et les enfants obéissent.
Et c'est ça ou pas ?
Ben, tout à fait.
Bon, d'accord.
Et donc, c'est ça, mais dans un sens très symbolique, métaphorique et plus large. C'est-à-dire, c'est pas seulement la domination masculine, mais une manière d'exercer le pouvoir de façon autoritaire, non démocratique, Et donc, quand on dit patriarcat, il faut comprendre cette idée de hiérarchie, d'autorité, de verticalité, d'un modèle de pouvoir que Starhawk, qui est une sorcière écoféministe qui a aussi lutté contre le nucléaire aux États-Unis, à Diablo Canyon, elle représente ça sous la forme d'un triangle. Donc, c'est vraiment un sens large de patriarcat. Et les écoféministes, d'ailleurs, souvent parlent de patriarcapitalisme, ou capitalisme patriarcal et néocolonial. Bon, c'est un peu long, mais ça permet de bien comprendre qu'en fait, patriarcat, dans leur optique, c'est pas juste un problème de genre, mais c'est un problème beaucoup plus vaste. Et le nucléaire, il cristallise bien tout ça, puisque le nucléaire, il se situe au croisement de plein d'enjeux. Donc, il y a à la fois l'enjeu environnemental, à la fois, il représente bien une sorte de nature secrètement guerrière de nos systèmes énergétiques, puisque le nucléaire, c'est à la fois le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Et donc, ça permet de mettre la puce à l'oreille sur ce côté guerrier, agressif, violent de nos systèmes énergétiques et donc de notre économie. Il y a aussi tout l'enjeu
post-colonial.
Alors l'enjeu démocratique.
Oui, démocratique, c'est important.
Oui, bah, voilà, l'enjeu démocratique, exactement. Et c'est vrai que dans tous les passages d'archives qu'on a pu entendre, ça ressort énormément cette idée qu'il y a pas d'information, pas de consultation démocratique, même pas de vote à l'Assemblée, et donc ce déni de démocratie et cette manière d'imposer des décisions de façon autoritaire, sans aucune transparence. Ça aussi, ça c'est flagrant dans le nucléaire. Et voilà, comme j'ai commencé à l'évoquer, il y a aussi l'enjeu qui est cher aux écoféministes de la question
post-coloniale
ou décoloniale, anticoloniale, puisque quelque chose qui est assez amusant, si on veut, si on aime l'humour noir, c'est que, par exemple, dans l'extrait de Pompidou que vous avez fait passer, Pompidou parle du nucléaire comme quelque chose qui permettrait l'indépendance énergétique. Mais en fait, l'uranium utilisé pour le nucléaire, il provient d'autres pays que la France. Il provient, par exemple, actuellement, il provient en grande partie du Niger, à 20%, donc d'une ancienne colonie française. Mais il provient aussi d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Namibie. Donc, en fait, si on peut parler d'indépendance énergétique alors que les matières premières ne viennent pas de France, c'est parce qu'on s'inscrit dans un système colonialiste et où on se croit indépendant parce qu'en réalité, on dépend de pays qui sont des anciennes colonies ou qui sont dominés dans les rapports Nord-Sud. Donc, il y a aussi cette question postcoloniale qui est très importante dans l'enjeu nucléaire. Donc, en fait, ça relie tout ce qui intéresse les écoféministes.
Bien, alors je précise juste qu'on, dans les archives, on a entendu Pierre Messmer, qui était le premier ministre.
Pardon.
Oui, mais c'est pas grave, parce que c'est la parole de Pierre Messmer, c'est celle de Georges Pompidou. Évidemment, c'est à l'époque, le président et le premier ministre sont parfaitement sur la même longueur d'onde.
France Inter. Sensible.
Jeanne Burgard-Boutal, je rappelle que vous êtes philosophe et autrice du livre Écoféministe, théorie et pratique, publié aux éditions L'Échappée en 2020. En quoi la présence des femmes dans ces mobilisations des années 70, mobilisations citoyennes contre le nucléaire et pas seulement, en quoi la présence des mères de famille, des citoyennes informées, vient-elle bousculer les formes, disons, traditionnelles du militantisme de l'époque ?
Oui, alors effectivement, c'est une. Elles ont une manière de lutter qui est spécifique, à la fois par choix et à la fois, je pense, par en prenant ce qu'on leur laisse ou ce qui leur reste. Par exemple, dès les années 50, on trouve des premiers groupes de femmes contre le nucléaire qui ont lancé un mode d'action très spécial qui est de collecter des dents de lait de bébés.
Ouais.
Donc elles ont appelé ça, c'est à partir de 1957, elles ont appelé ça le Baby Teeth Survey. Et en mettant des petites annonces dans les crèches, les écoles, les librairies, elles ont réussi à récolter en un mois 40 000 dents de lait. pour prouver l'impact, les dangers du strontium-90 qui est utilisé dans les essais nucléaires à cette époque-là.
Sur le lait maternel.
Sur le lait maternel et sur la santé des enfants, des bébés.
D'où les dents.
Donc il y a... Voilà, d'où les dents de lait. Donc voilà, ça c'est une forme d'action par exemple très bizarre, ou en tout cas très spécifique, et qui s'articule avec tout un discours un peu à double tranchant, on l'a entendu aussi chez les Guêpes de Fessenheim, de dire nous luttons en tant que mère, nous luttons en tant que mère de famille inquiète pour nos enfants. Mmh. Donc c'est une version très concrète de la préoccupation pour les générations futures qu'on trouve par exemple chez le philosophe Hans Jonas, mais chez lui ça reste assez abstrait. Et en fait, ces femmes vont se positionner dans une lutte affective en disant les générations futures, c'est nos enfants. Ça leur permet aussi de d'inventer des formes d'action qui vont être un peu déconcertantes pour les pouvoirs publics. Donc par exemple, toujours aux États-Unis, les femmes qui ont lutté contre le nucléaire, bon, il y a eu un certain nombre de procès. Et dans ces procès, on essayait de les faire passer pour des communistes. Donc c'est en plein milieu de la guerre froide, voilà, comme étant des agents d'une sorte de subversion. Et elles venaient au procès avec leur bébé, ou bien à la fin des procès, elles lançaient des bouquets de fleurs. Et donc, dans ce, si j'ai dit tout à l'heure que c'était à double tranchant, c'est que dans cette manière de lutter en tant que mère ou en tant que femme, en utilisant des formes d'action comme ça, qu'on pourrait qualifier de féminines, avec des bébés, des fleurs, des dents de lait, il y a à la fois, bah, comme le dit l'une des guêpes de Fessenheim, c'est à la fois une force et une faiblesse.
Vous voulez dire qu'il y aura un risque avec l'écoféminisme de figer les rôles de genre, hein, ou de nier la diversité des femmes, en fait, avec ce parallèle exactement. De la mère nourricière?
Alors, en tout cas, dans les formes d'action qu'elles ont utilisées, qui mobilisent beaucoup de choses traditionnellement qualifiées de féminines, donc j'ai donné ces exemples, mais c'est plus large, ça peut être par exemple la Greenham Common, donc autour de la base où la Royal Air Force en Grande-Bretagne voulait installer des missiles nucléaires, donc un autre exemple de lutte anti-nucléaire, il y a eu l'usage de la broderie, du tissage, de la décoration des grilles de la base militaire, donc quelque chose là aussi associé à des artisanats féminins. Et donc à la fois, il y a la volonté de récupérer, de reclaim, ce qu'on appelle ça souvent comme ça dans l'écoféminisme, donc de réhabiliter, réinventer, se réapproprier des choses traditionnellement qualifiées de féminines pour redonner de la valeur à ces activités féminines traditionnellement dénigrées. Et en même temps, donc c'est un risque, et en fait, ce qu'elles font, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme stratégique. C'est-à-dire, souvent, c'est pas une forme naïve d'adhésion à des clichés sur la féminité. Souvent, c'est très réfléchi. Et il y a l'idée que, justement, de façon stratégique, donc sans position théorique sur la féminité ou ce que serait la femme éternelle, souvent, ça, c'est au contraire quelque chose qu'elles déconstruisent. Mais donc, même sans prendre cette position, il y a l'idée que, de façon stratégique, on peut, pour une efficacité militante, utiliser ces formes d'action-là qui permettent voilà, une action originale, une action qui va déconcerter la police ou qui va déconcerter les opposants et qui permet de tenir un discours parfois aussi plus audible. Parce que ces femmes contre le nucléaire, elles se sont pas toujours revendiquées féministes. Parfois, elles ont joué plutôt sur la carte du féminin, notamment en disant, voilà, nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes de bonnes citoyennes. Donc, pour avoir un discours un peu qui a l'air un peu inoffensif, mais là encore, c'est un essentialisme stratégique.
Bien, écoutez, ce sera le dernier mot et la conclusion. Et Jeanne Burgard-Goutal, je vous remercie. Je rappelle
merci
le titre de votre livre, Écoféminisme, théorie et pratique, livre publié aux éditions L'Échappée en 2020. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le combat des femmes contre la centrale nucléaire de Fessenheim, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Delobader.